Il est 18h, vous êtes sur Europe 1.
On a entendu les cris d'une jeune femme et on a vu qu'effectivement, elle était grièvement blessée. Des images assez terrifiantes, effectivement, des visages en sang, c'était assez impressionnant.
Le choc à la mi-journée, lorsque l'information est tombée, une attaque à l'arme blanche devant les anciens locaux de Charlie Hebdo.
Oui, une femme et un homme grièvement blessés, alerte générale, tous les établissements scolaires confinés, comme une impression de déjà-vu.
Deux personnes ce soir en garde à vue, dont le principal suspect. Le parquet antiterroriste s'est saisi de l'enquête et on vous dit tout, bien sûr, dès le début de ce journal, sur cette attaque qui a réveillé de vieux démons.
Au sommaire également ce soir, Olivier Véran face à la fronde. Le ministre de la Santé à Marseille, où les restaurateurs et les cafetiers n'ont pas l'intention de respecter les restrictions imposées à partir de demain.
Et puis les autorités sanitaires valident un troisième type de test pour désengorger les labos. La Bourse de Paris a terminé ce soir en baisse de 0,69% à 4729 points.
Et puis attention à la météo avec plusieurs départements en vigilance, Anissa.
Oui, nous avons, Julien, actuellement 6 départements placés en vigilance orange pour pluie, inondation ou encore pour vent fort. Demain, le temps sera encore agité, les températures bien fraîches demain matin. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et en plein procès des attentats de janvier 2015, Paris voit donc ressurgir ses pires cauchemars avec cette attaque à la mi-journée, précisément devant les anciens locaux de Charlie Hebdo.
J'étais dans mon bureau, dans le bâtiment Charlie. J'ai entendu hurler dans la rue. Je me suis mis à la fenêtre et là, j'ai vu une femme s'effondrer sur une machine avec le visage ensanglanté. Et ensuite, donc, je suis descendu et là, j'ai vu un de mes voisins effondré au sol. Et pareil, avec un coup au visage qui était allongé. Donc, je lui ai apporté les premiers secours.
Voilà pour cette première réaction. Guillaume Bié du service police-justice d'Europe 1 nous a rejoint. On vient d'entendre ce témoignage recueilli par Théo Manval. Tout est allé comme à chaque fois très vite.
Oui, une attaque rapide, soudaine, sanglante. Juste avant midi, un homme seul arrive à pied, rue à pair, au pied de l'ancien immeuble de Charlie Hebdo. Deux personnes sont là, devant la porte, en train de faire une pause cigarette, lorsque cet homme les attaque à l'arme blanche avec une feuille de boucher avant de s'enfuir. Les deux victimes sont sérieusement blessées. Il s'agit d'un homme et une femme salariés de la société de production Première Ligne qui travaillent toujours à cette adresse et qui avaient, vous en souvenez, entendu la tuerie de janvier 2015 et filmé depuis les toits la sortie des frères Kouachi. Juste après l'attaque à la mi-journée, l'assaillant s'est donc enfui à pied, abandonnant son arme blanche sur place. Grâce à son signalement très rapidement diffusé, les policiers l'ont arrêté à quelques centaines de mètres de là, place de la Bastille. Il avait alors de nombreuses taches de sang sur lui et d'après nos informations, il a reconnu être l'auteur de cette double agression. Un petit peu plus tard, deuxième arrestation, au niveau d'une station de métro toute proche, les policiers ont interpellé un deuxième homme qui pourrait être lié au principal suspect. Ils ont en tout cas été vus ensemble dans les transports. Les enquêteurs restent prudents sur son éventuelle implication. Ces deux hommes sont actuellement en garde à vue à la section antiterroriste de la brigade criminelle parce que cette attaque est bel et bien considérée comme un acte terroriste à ce stade.
Merci Guillaume et vous restez avec nous. On va entendre un nouveau témoignage, celui de Bernard Nicolas qui travaille pour l'agence de presse Première Ligne.
Oui, agence qui produit notamment l'émission Cache Investigation. Et ce sont donc deux de ses salariés qui ont été pris pour cible par le ou les assaillants.
Une jeune femme qui travaille à l'accueil et un responsable de post-production était en train de fumer une cigarette à l'extérieur quand ils ont été agressés. Personne ne peut entrer dans les locaux s'il n'a pas le code d'entrée. Donc je pense que l'agresseur attendait que quelqu'un sorte et un peu au hasard, comme ça, a frappé. On a entendu les cris et on a pu voir la gravité des blessures, des images assez terrifiantes, effectivement, des visages en sang. Apparemment, ça va un tout petit peu mieux, c'est-à-dire qu'ils sont conscients, apparemment, et ils se sont même exprimés. Mais on est à la fois inquiet pour nos collègues, un peu fébrile, je ne vous le cache pas, parce que c'est un lieu tellement emblématique. Je pense qu'il n'a pas été choisi par hasard. Nous sommes tous un peu traumatisés.
Effectivement, on le disait à l'époque de la tuerie de Charlie, les journalistes de Première Ligne étaient déjà dans ces locaux. Ils avaient été les premiers à prévenir les secours et même à intervenir pour certains auprès des survivants.
Et ce soir, on s'interroge évidemment sur le profil des assaillants. Guillaume Bié, vous êtes resté avec nous. Que sait-on des deux hommes qui ont été arrêtés?
Alors d'abord, le principal suspect, celui qui a reconnu être l'auteur de cette attaque terroriste, c'est un jeune homme de 18 ans. Il est né au Pakistan, il est déjà connu de la police simplement pour avoir été arrêté en juin dernier à la gare du Nord à Paris avec une arme blanche sur lui. On ne sait pas encore depuis combien de temps il est en France. Les services de renseignement n'ont jamais entendu parler de lui, il n'a jamais attiré l'attention. Une perquisition a été lancée dès cet après-midi à son domicile en région parisienne. Le deuxième suspect, prudence pour Pour le moment, on sait très peu de choses sur lui, si ce n'est qu'il a 23 ans, qu'il est né en Algérie et qu'il a donc été vu dans le métro parler avec le principal suspect, raison pour laquelle il est lui aussi interrogé. Pour l'instant, globalement, on ne connaît pas les motivations de l'assaillant, mais le lieu de cette attaque, l'ancienne adresse de Charlie Hebdo, la date en plein procès des attentats et la manière dont les victimes ont été attaquées, tout cela a incité le parquet national antiterroriste à se saisir de l'affaire. Dans le contexte que l'on connaît, l'appel lancé par Al-Qaïda il y a 15 jours à commettre ce type d'attaque.
Même s'il est encore trop tôt, rappelons-le, pour parler d'une attaque terroriste à proprement parler. Merci Guillaume du service police-justice d'Europe 1. Alors dès l'alerte donnée à la mi-journée, tous les lycées, les collèges et les écoles alentour ont été bouclés, interdiction d'entrée ou de sortie.
Oui, et même au-delà du 11e arrondissement, dans un périmètre assez large. Ça a été le cas également des établissements qui accueillent des personnes âgées ou encore des crèches. Élise Dangean, on imagine l'inquiétude qui s'est emparée des élèves en particulier et le soulagement, on imagine, quand les portes ont pu enfin rouvrir.
Et oui, car la journée a été rude pour les enfants, notamment les plus petits comme Héloïse.
J'avais peur qu'ils rentrent, j'avais peur pour ma famille, mes parents, ma nounou, donc du coup je pleurais un peu.
L'émotion était donc parfois vive au moment des retrouvailles avec les parents. Lisa, 7 ans, a carrément sauté dans les bras de son papa sur le trottoir de l'école.
Je suis contente qu'il ne soit pas blessé à cause du méchant monsieur qui était venu.
Cette inquiétude pour les proches, eh bien, elle était partagée par les petits et par les grands. Dans les collèges et lycées, les profs ont donc autorisé leurs élèves à utiliser leur téléphone portable pour joindre leur famille. Eric a donc pu avoir sa fille Lucie avant de venir la chercher.
Je l'ai rassurée parce qu'elle était en pleurs quand même quand je l'ai eue. Donc on lui a expliqué, je lui ai dit que malheureusement, c'est pas le dernier, que néanmoins ils avaient retrouvé les personnes et que il fallait de toute façon continuer à se protéger et à faire attention. Voilà, il fallait vivre avec.
Apprendre à vivre avec, c'est déjà ce que font les enfants. Chaque année à l'école, ils doivent réaliser plusieurs exercices pour le risque d'intrusion et notamment d'attaques terroristes.
Le reportage d'Élise Dangean dans le 11e arrondissement de Paris. C'est donc la deuxième fois que ce quartier du centre de la capitale est pris pour cible. Le 11e arrondissement, non loin de Bastille, secteur qui bouge, qui vit beaucoup la nuit et qui ce soir est donc sous le choc avec ce sentiment, on le disait, que le cauchemar se répète. C'est ce que ressent en tout cas Sarah, qui vit depuis toujours dans ce quartier.
J'ai toujours habité dans le quartier. Ça fait plusieurs années, notamment dans le 11e, j'ai déménagé toujours près des lieux d'attentats, parce que j'habitais près du Bataclan et ensuite rue de Charonne. Et du coup, l'impression de revivre un peu ce qu'on a vécu il y a quelques années. Mais du coup, voilà, un état de sidération et un peu d'horreur, quoi. Et surtout maintenant, étant maman, encore plus inquiète. De peur, oui, de peur et de ras-le-bol et de se dire que ça s'arrêtera jamais, quoi. Et du coup, une envie de se dire qu'on quitte le quartier parce que on a l'impression que c'est un arrondissement hyper ciblé et qu'en même temps, c'est un endroit magnifique et qu'on se sent à l'abri nulle part, que personne n'est à l'abri, quoi. On se sent très vulnérable.
Un témoignage de Sarah, habitante de ce quartier, de nouveaux meurtriers recueillis par Yasmina Katou. Très rapidement, le Premier ministre et son ministre de l'Intérieur se sont rendus sur place, la maire de Paris également. Une cellule de crise a été installée, pas de revendication pour l'instant. On sait qu'Al-Qaïda avait menacé une nouvelle fois Charlie Hebdo après la réédition des caricatures de Mahomet à l'occasion de l'ouverture du procès des attentats de 2015.
Oui, on aura l'occasion d'y revenir très longuement après ce journal avec notre invité Jean-Charles Brizard, c'est l'un des plus grands spécialistes du terrorisme en France.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Oui, 18h09, la suite de votre journal avec Isabelle Millet. C'est une ville en révolte, prête à braver les interdits qui a accueilli cet après-midi le ministre de la Santé. Marseille entre en résistance, en quelque sorte.
Plusieurs centaines de manifestants s'étaient rassemblés, en tout cas ce matin, pour dire non aux nouvelles mesures de restriction. Parmi eux, de nombreux patrons de cafés et de restaurants qui vont devoir baisser le rideau pour 15 jours à partir de demain.
Oui, et même si le gouvernement s'est engagé à compenser une partie de leurs pertes, beaucoup ont l'intention de désobéir.
Et la police municipale ne verbalisera pas les restaurants et les bars qui resteront ouverts. C'est ce qu'a dit ce matin l'adjointe au maire, Samia Ghali. C'est donc dans ce contexte de désobéissance civile, peut-on dire, qu'Olivier Véran est arrivé sur place aujourd'hui. Nathalie Chevance, le ministre, s'est livré à une explication de texte pour tenter de convaincre les Marseillais du bien fondé sanitaire de ces mesures.
Oui, avec une démonstration de chiffres ici dans l'amphithéâtre de l'hôpital de la Timone. Le ministre de la Santé qui a visité le service de réanimation où sur les 15 lits dédiés, 14 sont occupés par des patients Covid avec des malades contaminés parfois dans un cadre festif. L'occasion pour Olivier Véran de rappeler que les bars et restaurants sont des lieux à risque où l'on enlève le masque. Le scénario, c'est que d'ici 15 jours, 3 semaines, certaines opérations soient déprogrammées.
Mon seul objectif, c'est de protéger les Marseillais. C'est de ne pas prendre le risque que les Marseillais ne puissent pas suivre leur traitement contre le cancer, qu'ils ne puissent pas se faire opérer suite à un problème de santé. Si nous prenons le risque d'attendre pour voir si la situation devait s'améliorer d'elle-même, nous prendrions aussi le risque de devoir imposer des mesures encore plus fortes que celles qui ont été prononcées.
Alors à l'extérieur, Olivier Véran a eu droit à un comité d'accueil car cette réalité sanitaire a bien du mal à être acceptée par les commerçants. Noël tient un bar à Peigné, petite commune sur les hauteurs de Marseille.
Ça fait 6 mois qu'on nous dit qu'il manque de lits, ça fait 6 mois qu'on nous dit que l'hôpital va pas bien, il fallait anticiper. Et après qu'ils viennent dire aux restaurateurs, on vous confine parce que c'est chez vous qu'il y a des clusters, qui commencent par le début, qui commencent à remettre du fric dans les hôpitaux. Et après c'est nous qu'on subit, j'ai des employés, j'ai honte de leur dire on ferme, je sais plus quoi leur dire.
Alors les restaurateurs devraient pouvoir rester ouverts jusqu'à dimanche soir, mais certains ont déjà annoncé entrer en résistance.
Le reportage de Nathalie Chevance, correspondante d'Europe 1, donc à Marseille.
À Marseille, comme partout en France, un objectif, désengorger les laboratoires.
Et la Haute Autorité de Santé vient justement de donner son feu vert aujourd'hui à un troisième type de test pour diagnostiquer le Covid-19.
Oui, ça fait longtemps qu'on en parle, les fameux tests antigéniques.
Réservés, Virginie Salmen, aux personnes qui ont des symptômes, hein, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. Ce sont des tests très fiables, un peu moins sensibles que les tests PCR. Et le gros intérêt, c'est qu'on pourra avoir les résultats en 20 à 30 minutes à destination des personnes qui ont des symptômes du Covid seulement pour l'instant. Alors c'est un petit kit avec un écouvillon, donc c'est toujours un test dans le nez, mais qui pourra être fait soit en laboratoire, soit chez le médecin ou dans certaines pharmacies. Le résultat sera lisible comme sur un test de grossesse, c'est une petite bandelette sur laquelle on dépose le prélèvement nasal et qui réagit en changeant de couleur. C'est donc une solution à l'attente interminable des résultats jusqu'à 5 voire 7 jours.
Effectivement, ça a l'air pas mal du tout ça. Autre nouveauté, Virginie, validée elle aussi par la Haute Autorité de Santé, il y a désormais une solution pour éviter les fameux tests dans le nez, en tout cas si l'on est une personne fragile.
Oui, au lieu de faire un test PCR classique dans le nez, les enfants ou les personnes âgées peuvent désormais se faire tester de deux façons. Alors si elles ont des symptômes, elles peuvent faire un test salivaire. Si elles n'ont pas de symptômes, un test avec prélèvement au fond de la gorge, c'est un peu moins intrusif.
Merci beaucoup Virginie Salmen du service Société d'Europe 1.
En bref également Isabelle, dans l'actualité, le nombre de chômeurs qui recule en août.
Moins 4,3% pour la catégorie A, c'est-à-dire les personnes qui n'exercent aucune activité. Mais ce sont des chiffres qui sont un peu en trompe-l'œil hein, parce qu'ils ne prennent pas encore en compte les récents plans sociaux.
Oui, cette baisse est due à un glissement des chômeurs de la catégorie A, c'est technique, vers les autres catégories, c'est-à-dire la B et la C, celle des demandeurs d'emploi qui exercent une activité réduite à temps partiel notamment.
Voilà, alors que la saignée se poursuit dans le secteur aéronautique, l'équipementier Latécoère annonce qu'il compte supprimer 475 emplois en France pour s'adapter à la crise du transport aérien provoquée par l'épidémie. 197 emplois également supprimés cette fois chez un autre équipementier aéronautique, Lizy-Creuset à Marmande dans le Lot-et-Garonne. Et puis si vous aimez vous aussi vous arrêter manger une andouillette chez Courtepaille sur la route des vacances, parce que j'adore l'andouillette et qu'elles sont très bonnes chez eux.
Parce
qu'elles sont très bonnes chez eux sur la route des vacances.
Bien,
vous serez rassuré d'apprendre.
Attention, je suis un pro de l'andouillette.
C'est vrai.
Andouillette de 3.
Pourquoi je vous dis tout ça? Eh bien, parce que Courtepaille, l'enseigne en difficulté depuis le Covid, est reprise par Buffalo Grill. Donc, on va pouvoir continuer à manger de l'andouillette.
Bonne nouvelle. Pardon, je vous ai perturbé. Merci, Isabelle. On vous retrouve à 18h30 pour les titres et à 19h pour le Grand Journal de l'Info. La météo avec Anissa qui nous annonce des mauvaises nouvelles, justement, si vous voulez manger une andouillette sur la route
saison,
des vacances.
Oui. C'est de saison, l'andouillette.
Des vigilances en cours dans le sud de la France.
Oui, nous avons 6 départements, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées, en vigilance orange pour pluie, inondation. Les pluies sont très fortes dans le sud-ouest. L'Aude et les Pyrénées-Orientales également pour pluie, inondation. Et les 2 départements de Corse pour vent violent. L'Aude et les Pyrénées-Orientales également pour vent violent. Alors au sud de la Garonne, il pleut encore beaucoup ce soir et cette nuit. Le Mistral souffle fort également dans le sud. Demain, c'est un temps encore très automnal et très agité. Demain, il n'y a finalement que sur la Bretagne, la Normandie, le centre-val de Loire et le pourtour méditerranéen que le soleil sera présent. Dans toutes ces régions, vous allez pouvoir en profiter. Sur le Languedoc et le Roussillon arrivent les pluies dans l'après-midi. Ailleurs, eh bien, le ciel est chargé, souvent pluvieux. Sur la Corse et sur les Hauts-de-France, attention aux orages qui éclatent dans l'après-midi. Et les températures, elles sont bien fraîches demain matin, elles continuent de baisser.
Ah.
On aura 4 degrés à Rodez demain, 9 à Paris,
c'est frais,
14 à Nice. Et puis dans l'après-midi, on garde les mêmes valeurs qu'aujourd'hui, 10 à 23 degrés, 10 pour Aurillac, 12 à Metz, 14 à Dijon et Quimper, 15, on a une belle brochette de 15 à Lyon, à Paris, à Rouen, à Toulouse, à Bordeaux, 18 à Biarritz et 23 à Nice.
Bien, vous aimez l'andouillette, Anissa ?
Et les brochettes.
Bien, formidable. Merci Anissa, à tout à l'heure pour un nouveau point météo.